de Dieu au chapitre 8e du prophète Daniel. C'est à la page 620. L'année dernière, l'étude s'était arrêtée au verset 17, elle reprendra donc au verset 18. Mais pour bien saisir la pensée de Dieu contenue dans ce chapitre, il a semblé bon aux frères que nous relisions entièrement ce chapitre 18. Aussi, nous commençons l'étude donc au verset 1er, à la page 619 alors. La troisième année du règne de Belshazzar le roi, une vision m'apparut à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue au commencement. Et je vis dans la vision. Et il arriva, quand je vis, que j'étais à Suse, le palais qui est dans la province des Lames. Et je vis dans la vision, et j'étais près du fleur Ulaï. Et je levai les yeux, et je vis. Et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait deux cornes. Et les deux cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre. Et la plus haute s'éleva la dernière. Je vis le bélier heurtant vers l'Occident, et vers le Nord, et vers le Midi. Et aucune bête ne pouvait tenir devant lui. Et il n'y avait personne qui pût délivrer de sa main. Et il fit selon son gré, et devint grand. Et je considérais, et voici, un bouc venant du couchant sur la face de toute la terre, et qui ne touchait pas la terre. Et le bouc avait une corne de grande apparence entre ses yeux. Et il vint jusqu'au bélier qui avait les deux cornes, que j'avais vu se tenir devant le fleuve, et courut sur lui dans la fureur de sa force. Et je le vis arriver tout près du bélier, et s'exaspéra contre lui, et frappa le bélier, et brisa ses deux cornes. Et le bélier fut sans force pour tenir devant lui. Il le jeta par terre, et le foula aux pieds. Et il n'y eut personne qui put délivrer le bélier de sa main. Et le bouc devint très grand. Et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée, et quatre cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place vers les quatre vents des cieux. Et de l'une d'elles sortit une petite corne, et elle grandit extrêmement vers le Midi, et vers le Levant, et vers le pays de beauté. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et fit tomber à terre une partie de l'armée, et des étoiles, et les foula aux pieds. Et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, et le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. Et un temps de détresse fut assigné au sacrifice continuel pour cause de transgression. Et elle jeta la vérité par terre, et agit, et prospéra. Et j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit au personnage qui parlait, jusqu'où va la vision du sacrifice continuel et de la transgression qui désole, pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulée aux pieds. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le lieu saint sera purifié. Et il arriva que lorsque, moi Daniel, j'ai vu la vision, j'en cherchais l'intelligence. Et voici comme l'apparence d'un homme se tint vis-à-vis de moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Et il cria et dit, Gabriel, fais comprendre à celui-ci la vision. Et il vint près du lieu où j'étais, et quand il vint, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Et il me dit, comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Or, comme il parlait avec moi, j'étais dans une profonde stupeur, ma face contre terre, et il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. Et il dit, voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation. Car un temps déterminé sera la fin. Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. Et le bouc velu, c'est le roi de Javante. Et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi. Et qu'elle ait été brisée, et que quatre autres cornes se soient élevées à sa place, c'est que quatre royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec sa puissance. Et au dernier temps de le royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux, et entendant les énigmes, et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance, et il détruira merveilleusement, il prospérera et agira. Il détruira les hommes forts et le peuple des saints, et par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main, et il s'élèvera dans son cœur, et par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Il se lèvera contre le prince de princes, mais il sera brisé sans main. Et la vision du soir et du matin, qui était dite, est vérité. Et toi, serre la vision, car elle est pour beaucoup de jours. Et moi, Daniel, je défaillis, et je fus malade quelques jours, puis je me levai, et je m'occupai des affaires du roi. Et je fus stupéfié de la vision, mais personne ne l'a compris.
Étant donné que le frère à qui la chose incombe se désiste, je suis donc chargé de deux mandats. Le premier est très agréable, c'est celui de souhaiter la bienvenue à tous les amis qui sont ici cet après-midi de la part de l'Assemblée de Pâturage. Vous prenez donc acte que l'Assemblée de Pâturage vous souhaite à chacun et à chacune une cordiale bienvenue. J'ai un autre mandat beaucoup moins favorable. Nous ne pouvons pas aborder le sujet de cet après-midi sans au moins replanter quelques jalons essentiels de ce sujet si important dont nous avons déjà commencé l'étude voici quelques années. La place de la prophétie dans la parole de Dieu suffit à elle seule pour nous en montrer toute l'importance. Seigneur dira d'ailleurs lui-même, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Matthieu 11, verset 12. Car la loi et tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Pour mémoire, et nous essayerons d'être succincts, on sait que les Juifs, à peu près au temps du Seigneur, partageaient l'Ancien Testament, c'était les Écritures, bien entendu, il n'y avait pas le Nouveau Testament écrit. Les Juifs partageaient l'Ancien Testament en 22 parties, autant de parties qu'il y a de lettres dans leur alphabet. Il y avait donc les 5 livres de Moïse, il y avait 5 livres que l'on appelle encore aujourd'hui les hagiographes ou les livres saints, on trouve cette expression dans l'introduction de notre Bible, c'est-à-dire le livre des psaumes, le livre des proverbes, le livre du cantique des cantiques, le livre de l'Ecclésiaste et le livre de Job. Ça fait donc 10 parties de ces 22. Les 12 parties qui restaient étaient appelées les prophètes. Et pour ne pas se tromper, les 12 petits prophètes, appelés ainsi, constituaient une partie de ces 12 prophètes. Vous voyez donc l'importance de la prophétie, du ministère des prophètes dans l'Ancien Testament. Pourquoi la prophétie? Elle survient, elle est établie, Dieu l'a fait connaître lorsque l'état de son peuple donne le plus grand souci quant au maintien des bénédictions dont Dieu veut l'entourer. La prophétie suppose toujours un temps de décadence. Et Dieu fait intervenir le prophète, le choisissant souverainement. De saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint, pour rappeler à son peuple qu'il a conclu avec lui une alliance qui comporte des conditions impératives à remplir, sans la réalisation desquelles Dieu ne pourra pas continuer à supporter ce peuple, encore moins à le bénir, et devra exercer sur lui, envers lui, les châtiments que les prophètes annoncent en vue d'arrêter le peuple sur le chemin de la décadence. Parce que c'est une heure étrange, inaccoutumée pour Dieu, d'exercer le jugement. Mais il est arrivé un temps où le peuple d'Israël, que Dieu avait séparé des nations, s'identifiant avec les nations pour adorer leur Dieu et descendant moralement plus bas que les nations, est arrivé un moment où il n'y a plus de remède. Dès lors, Israël est déjà parti en captivité depuis 150 ans, mais le peuple de Juda, le peuple lié à Jérusalem, capitale de ce royaume du Sud, va aussi être arraché de sa terre et s'en aller en captivité à Babylone. Tu as donc dû exercer le jugement qu'il avait annoncé. Rappelons encore que la prophétie a pour sphère la terre, Israël et les nations. Pour nous, pour l'Église, nous n'entrons pas dans le domaine de la prophétie, nous n'y avons aucune part. Pourquoi ? Parce que notre appel est céleste et nos bénédictions sont célestes. Il n'y a pas de prophétie pour l'Église, à proprement parler. Sauf que, pour être précis, puisqu'on parle des églises d'Apocalypse à qui le Seigneur a envoyé des lettres, on appelle cela les églises prophétiques, les lettres prophétiques, il est bien entendu que lorsque l'Église, abandonnant sa position de séparation, oubliant son appel céleste, se mélange, s'identifie avec le monde, jusqu'au point de faire un amalgame avec lui, l'ensemble politico-religieux qui se développe aujourd'hui pour atteindre bientôt sa maturité et le jugement qui va tomber sur ce système, il est bien évident que la prophétie s'exerce aussi à l'égard de ce système politico-religieux qui n'a plus rien de céleste mais qui s'identifie avec le monde. Sauf que la prophétie dans l'Ancien Testament a Israël et les nations pour objet, tandis que dans le Nouveau Testament, c'est l'Église déchue et le monde. Alors, adolescent d'une piété remarquable, attaché à tous les avantages que Dieu avait donnés à son peuple, respectueux de la parole de Dieu, de tous les enseignements qu'il nous avait donnés, Daniel s'en va en captivité, très jeune encore. Fait partie du premier contingent des captifs qui vont partir à Babylone. Il fait partie des prophètes de la captivité, car on sait qu'il y a des prophètes de la période assyrienne, jusqu'au moment où les 10 tribus sont emmenées en captivité. Il y a alors les prophètes de la période chaldéenne. C'est donc Jérémie qui est resté dans le pays, c'est Daniel qui va à Babylone, ainsi qu'Ézéchiel. L'un et l'autre ayant un ministère tout à fait différent. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Donc, toute une série de prophètes pendant la période assyrienne. La période assyrienne veut dire la période pendant laquelle Israël est reconnu. Et l'Assyrien, le roi du Nord, est l'ennemi dont Dieu se sert pour châtier son peuple. Ensuite, 3 prophètes pour la période chaldéenne. Et ensuite, 3 prophètes pour la période persane. Après la captivité, Dieu envoie encore 3 prophètes, mais il ne parle plus à son peuple depuis la captivité. Depuis que le peuple est arraché de sa terre, il faut bien retenir cela, c'est un élément essentiel. Dieu a dû dire « L'eau a mis plus mon peuple ». Et avec douleur, avec infiniment de peine, il va envoyer ce pauvre peuple en captivité à Babylone et à travers le désert. Nous pouvons, par les lamentations de Jérémie, facilement imaginer ce qu'a été le calvaire de ces captifs qui devaient faire ces 900 km à vol d'oiseau, quittant leur terre où ils avaient tant de souvenirs, tant d'attaches pour s'en aller vers une terre étrangère à Babylone. Après la captivité, Agée, Zacharie et Malachie sont donc 3 prophètes qui interviennent pour encourager le petit résidu que Dieu a maintenu. Car la prophétie, c'est là pour objet d'avertir le peuple du grand danger qu'il court, des jugements qui inexorablement devront fondre sur lui, c'est en vue de l'arrêter. Parce que si Dieu voyait de la repentance, eh bien la sanction serait levée. La prophétie a pour but d'arrêter ce peuple, le peuple sur le chemin de la décadence. Et en même temps, d'encourager un résidu que Dieu a toujours dégagé dans tous les temps. Et de nous montrer, chose essentielle, qu'il dépeint devant le cœur du petit résidu, les gloires du Seigneur. Le Saint-Homme de Dieu en parlait, étant poussé par l'Esprit Saint, et ils nous ont parlé longtemps d'avance des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et le petit résidu fidèle est mis en présence des souffrances que Christ allait rencontrer. Et Et de ce fait, jouissant de la sympathie du Seigneur qui allait connaître leur chemin, jouissant d'avant de la sympathie du Seigneur qui allait entrer dans ce chemin connu par le résidu, méconnu de son peuple, méprisé par le peuple, objet de toutes sortes de railleries, rejeté par le peuple. Seigneur, entre en sympathie avec toutes les souffrances du résidu. Sauf qu'il y a deux pôles essentiels dans ce grand sujet prophétique, c'est-à-dire Israël et la gloire du Seigneur. Dieu n'oublie jamais les promesses qu'il a faites à l'égard d'Israël, qui s'accompliront malgré tout le déploiement de la puissance de l'ennemi pour séduire le peuple, conduire dans le mal afin d'attirer sur lui le jugement de Dieu. Dieu n'oublie jamais les promesses qu'il a faites. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Et en même temps, Dieu a toujours devant lui la manifestation éclatante de la gloire du Seigneur et qui sera présentée avec d'autant plus d'éclat là où il a été humilié. Ce sont les deux grands faits qui sont essentiels dans la prophétie. L'accomplissement des promesses faites au Père à Israël à travers un petit résidu, nous venons d'essayer de le montrer, et en même temps, les gloires de Christ. Alors, chers amis, encore deux mots. Daniel, premier chapitre de son livre, nous donne à connaître son caractère de piété et qui le rend ainsi à même de recevoir les pensées de Dieu. Car les pensées de Dieu sont dans l'Écriture. Elles sont là. Mais pour être saisies, il s'agit d'un état moral qui est requis. À qui le Seigneur va-t-il ouvrir ses secrets? Abraham, pas à Lot. Vous voyez, rien que cet exemple suffit pour nous montrer que si la révélation des pensées de Dieu se trouve dans la Bible, mais pour les saisir, il faut donc que nous ressemblions à Abraham. Il faut que nous vivions avec Dieu, pas avec le monde. Le monde, quel qu'il soit, si grande que soient ses possibilités sur le terrain intellectuel, ne peut rien connaître des pensées de Dieu. Daniel va devenir le révélateur des secrets. Et dans la grande statue qu'a vue le monarque Nebuchadnezzar, le premier chef de la première monarchie générale, l'empire chaldéen, qui vient d'être suscité sur la scène et dont Dieu va se servir pour châtier son peuple, c'est ce pauvre Daniel captif qui sera seul capable de dire au roi, eh bien voilà le songe que tu as vu et en voici l'explication. Depuis la tête jusqu'aux pieds, Daniel va nous donner la carte du monde. Et nous sommes au début du premier empire gentil, et Daniel va nous donner le détail de tout ce qui allait se succéder sur la scène, et il reste maintenant à accomplir de cet immense statut, qui est l'image de la succession des nations, à qui Dieu a confié l'autorité dans ce monde, après qu'il a ôté son trône à Jérusalem. En l'an 606 commence donc le temps des nations, c'est une date essentielle à retenir. Eh bien, Daniel va montrer à l'entrée au début de l'existence du premier empire, tout ce qui allait se succéder. Et comme quelqu'un le faisait remarquer, peut-être même quelqu'un d'entre nous, que reste-t-il à accomplir prophétiquement de cette immense statue? La tête, la poitrine, le ventre, les cuisses, les jambes, tout est déjà terminé. Il reste seulement les orteils. La plus petite partie de la grande statue, tout est déjà de l'histoire, et Daniel nous donne la révélation de cette histoire lorsqu'elle n'est pas encore, lorsqu'elle est à peine ébauchée, il reste les orteils à accomplir. Ensuite, nous avons l'histoire et le caractère des nations au cours de leur existence. Les six premiers chapitres sont écrits en chaldéen, la langue dans laquelle les captifs, la langue qui était parlée par ceux qui tenaient les juifs captifs, et c'est par ce grand monarque que la statue est présentée. À partir du chapitre 7, c'est écrit en hébreu, la langue sacrée, parce que Dieu fait connaître maintenant ses secrets à Daniel. Au chapitre 7, première révélation, puisque le chapitre 8 nous dit, en commençant, ce que la troisième année, une vision m'a paru après celle que j'avais vue au commencement. Nous sommes donc à la troisième année de Belshazzar. C'est le dernier roi de Babylone qui va disparaître de la scène et qui va marquer la fin de cet empire au profit de l'empire médo-perse qui va maintenant être sur la scène l'empire maître du monde. Alors, outre la première vision, Daniel en voit une seconde dans le chapitre 8, mais celle que nous avons considérée, et nous n'allons pas entrer dans les détails, au chapitre 7, elle est d'une très grande importance. C'est le pendant, c'est le parallèle de ce que nous avons dans la statue, mais vu du côté de Dieu, vu du côté du résidu à qui le Seigneur montre le caractère interne du pouvoir, dont l'éclat extérieur est présenté dans la statue. Mais Dieu nous montre qu'après tout, ces grands empires, ce sont des bêtes. Mais des bêtes qui sont tenues en main fermement par le Seigneur. La première bête, évidemment l'empire chaldéen, que dont nous venons d'esquisser l'existence et l'histoire, c'est-à-dire le lion avec des ailes d'aigle, les deux rois des animaux, le roi des animaux qui vole et le roi des animaux que nous connaissons bien, le lion devant lequel tous doivent se détourner. Donc, les deux symboles qui sont employés communément dans le monde pour montrer ce qu'est la puissance, ils sont attribués à Nebuchadnezzar. Dans la seconde bête, nous avons l'ours, avec trois côtes dans sa gueule, une démarche pesante. Il s'agit bien du caractère de l'empire perse présenté de la façon la plus saisissante. Ensuite, la troisième bête, c'est un léopard avec quatre ailes d'oiseau. Nous y venons tout de suite. Le léopard, a-t-on dit, est l'animal qui bondit prodigieusement, atteignant 112 km/h lorsqu'il est en pleine manifestation de sa puissance dans la course, dans les bonds qu'il produit. L'animal le plus rapide du monde. Quelle image, et avec quatre ailes d'oiseau, quelle image pour nous parler de l'homme qui est en scène dans notre chapitre 8, c'est-à-dire Alexandre, appelé le Grand, qui en quelques années a conquis un immense empire. Mais nous n'avons pas anticipé, nos frères vont y venir. Alors la quatrième bête est une bête effrayante et terrible. Elle n'a pas fini son histoire. Alors, dans le chapitre 8, où nous sommes arrivés, chers amis, comme je m'assieds tout de suite, nous avons un complément d'enseignement qui s'ajoute au chapitre 7, dans cette dernière vision du chapitre 8, parce que Dieu veut nous donner des détails sur la seconde et la troisième bête qui sont en scène, parce qu'ils vont jouer un grand rôle dans l'histoire du peuple de Dieu. Alors, à l'ours, c'est-à-dire l'empire médo-perse, correspond le bélier que nous avons dans le chapitre 8. L'ours, un animal massif, lourd, vous voyez, comme le bélier, comme la poitrine et les bras d'argent, c'est dans la silhouette d'un homme, c'est la partie qui forme sa carrure. Donc, l'ours, la poitrine d'argent, et le bélier, voilà trois symboles qui illustrent bien les caractères essentiels de l'Empire russe. Le bélier, ramassé, trapu, qui ressemble, quant à son caractère, à l'ours. Tandis que le léopard aux quatre ailes d'oiseau, ce sont les jambes d'airain, les jambes qui parlent de mouvement, de marche, la marche rapide d'Alexandre le Grand, pour la conquête d'un immense empire, est en relation avec le léopard aux quatre ailes d'oiseau et avec le bouc. Animal beaucoup plus leste, beaucoup plus rapide, animal beaucoup plus dégagé que ne l'est le bélier. Et ce bélier, si fort soit-il, s'agit de l'empire médo-perse qui avait donc été en scène depuis de longues années en tout cas, et qui avait asservi la Grèce, la Palestine, qui régnait en maître sur tous les pays connus de ce temps-là. Et en peu de temps, assouvissant ses ressentiments contre l'Empire perse qui les avait tenus captifs, Philippe, le père d'Alexandre le Grand, avait réuni la Macédoine et la Grèce et en avait jeté les bases d'un empire qui sera consolidé par Alexandre le Grand, dont il va lancer des armées contre les Perses et qu'il va défaire entièrement. Mais cette grande corne, au bout qu'elle a été brisée, tout de suite, le règne d'Alexandre le Grand était très court, une douzaine d'années. Il est mort en 330 de notre ère, 323 de notre ère, d'avant notre ère, à Babylone, à la suite âgé de 32 ans seulement, à la suite des excès invraisemblables qu'il avait commis. Et dès lors, son empire ne s'est pas maintenu dans son unité, il a été partagé entre ses quatre généraux. D'une part le roi du Nord, d'autre part le roi d'Égypte, les Ptolémées, les Séleucides au Nord, et en même temps la Thrace d'un côté, la Macédoine de l'autre, mais qui occupe moins de place dans l'histoire prophétique. Dieu va nous montrer maintenant, aujourd'hui, dans notre chapitre, ce qu'a été et ce que sera le roi du Nord qui joue un si grand rôle dans le champ prophétique, dans la crise de finale, et qui a pour type, qui a pour exemple l'histoire d'Antiochus Épiphane, ce qui veut dire Antiochus l'illustre, mais illustre par les crimes qu'il a commis. Il est le 8e roi de cet empire du Nord, de la Syrie, et c'est lui qui, les Maccabées nous donnent beaucoup de détails, qui va accomplir des choses absolument méchantes, cruelles à l'égard de ce pauvre peuple juif. Et il est bien le type de ce que sera le roi du Nord prophétique. Et c'est pourquoi, dans ce chapitre 8, dernier mot, nous essayons, pour bien montrer qu'il s'agit d'un type, vous avez une parenthèse au verset 11, ce qui a été accompli essentiellement par ce roi du Nord, par Antiochus, et il, y a toujours question d'elle, de la corne, mais et il est relatif essentiellement à l'activité d'Antiochus Épiphane, dont l'histoire est si abominable. Et soit dit en terminant, vous savez que si on lit un peu attentivement ce qui nous a été laissé sur ces histoires, c'est de plus haut intérêt, cet homme, à la fin de sa vie, se repentait de tous les crimes qu'il avait commis. Vous savez qu'il a été jusqu'à, notre chapitre 8, le monde, jusqu'à profaner le lieu saint. Mais c'était aussi, d'un autre côté, Dieu qui intervenait pour châtier son peuple. On sait qu'il a été jusqu'à offrir une truie sur l'autel de l'Éternel. Sans parler des atroces souffrances auxquelles il a soumis les Juifs. Sur son lit de mort, il voulait pleurer, regretter tous ses crimes. Mais l'histoire nous rappelle que c'était trop tard. Il avait laissé passer le temps de la grâce et cet homme est mort dans des conditions effroyables. C'est son histoire que nous avons ici. Et maintenant, dernier mot que nous disons, il y a un personnage, il ne faut pas se tromper, un personnage qui parle et un autre ange, un autre personnage pose des questions et vient révéler à Daniel ce qu'il a entendu. Il s'agit de Gabriel. Et quand Daniel a entendu cette vision, il a vu, et ensuite il a entendu, et ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu le plonge dans une telle stupeur qu'il tombe par terre. Et aussi bien que nous avons pu, dans nos pauvres limites, vous situer cette histoire, voilà où nous sommes arrivés cet après-midi. Évidemment, chers amis, il n'échappe à personne qu'on ne peut pas en quelques minutes entrer dans tous les détails. Et si imparfaitement que cela soit, nous avons essayé de vous montrer l'enchaînement des faits jusqu'au moment où nous sommes arrivés au chapitre 8.
Un passage pour nous aider à mieux comprendre le sujet dans lequel l'Esprit nous introduit et les choses qui sont dites à l'occasion de l'histoire du peuple d'Israël. En Deutéronome 32, passage que chacun d'entre nous connaît, au verset 8, nous lisons que quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est le lot de son héritage. Il le trouva dans un pays désert et dans la désolation des hurlements d'une solitude. Il le conduisit ça et là, il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de son œil. Ceci veut nous expliquer comment Dieu avait toujours en vue son peuple terrestre et au milieu de ce peuple la gloire de son Fils, la gloire de Christ. De sorte que le centre du monde, c'est Jérusalem et la terre d'Emmanuel, cette terre dans laquelle est placée la capitale du monde vue des yeux de Dieu. Les nations sont placées autour de Jérusalem comme centre du monde. Et la parole nous parle en fait de tous les points cardinaux. et nous parle d'abord de la puissance occidentale. Cette puissance occidentale, ce sera l'Empire romain, qui a été la quatrième des maîtres, notre cher frère M. Finet l'a rappelé, qui ressuscitera, chose exceptionnelle et unique dans l'histoire du monde, et qui formera un des acteurs de la scène finale. L'Empire romain aura à sa tête un chef qui sera la bête romaine, dont il est question incidemment en Daniel 7, comme étant la petite corne de Daniel 7. Nous avons au nord de la Palestine le royaume du nord, au sud le royaume du midi. Ces deux royaumes, du point de vue de Dieu, sont issus du royaume grec d'Alexandre, puisque deux des quatre généraux d'Alexandre qui se sont disputés le pouvoir après la mort d'Alexandre le Grand ont donné lieu aux deux généalogies des Séleucides qui ont pris possession de la Syrie et à partir duquel s'est développé le royaume du Nord, et les Ptolémées qui ont pris possession de l'Égypte et à partir duquel s'est développé le royaume du Midi. Nous avons donc trois grands royaumes qui prendront une part importante, une place active dans l'histoire, le conflit final des derniers jours. À la Syrie se lie la Syrie, le royaume du Nord comprend pour que nous puissions mieux comprendre, l'ensemble essentiellement du bloc Est, c'est-à-dire des pays que nous appelons des pays communistes aujourd'hui. À l'Égypte sera liée certainement les nations telles que l'Éthiopie et telles que la Libye, peut-être tout l'ensemble de la côte méditerranéenne de l'Afrique. Il reste l'Est, tout à fait à l'Orient, les rois de l'Orient qui ne sont pas mentionnés dans Daniel, mais qui sont mentionnés dans la voie qui leur est préparée en rapport avec le conflit final, cette armée de deux myriades de myriades, c'est-à-dire 200 millions d'hommes, qui sera levée pour réaliser ce que les nations ont longtemps craint, c'est-à-dire le péril jaune. Nous avons donc quatre grandes nations qui sont centrées autour de Jérusalem. Et la nation d'Israël, la terre d'Emmanuel, sera le centre dans lequel se réglera ce conflit, lorsque Christ, comme prince des princes, roi des rois, seigneur des seigneurs, viendra délivrer son peuple d'Israël. La fin du chapitre 11 nous parle de ce conflit. En rapport avec le roi du Nord, la petite corne de Daniel 8 est en rapport avec le chef du royaume du Nord, alors que la petite corne de Daniel 7 est en rapport avec le chef de l'Empire romain. Voici au point de vue géographique ce que la parole nous enseigne. Seconde remarque, au point de vue simplement historique. Dieu compte le temps pour son peuple terrestre. Pour l'Église, non. Bien simple à comprendre, puisque l'Église étant entièrement hors du temps, elle est appelée dans la période dans laquelle nous vivons et sort du temps, puisqu'elle a été conçue dans les pensées du Dieu dans l'éternité passée, alors que le temps n'était pas, et que sa part est dans l'éternité à venir avec Christ dans la maison du Père, lorsque le temps ne sera plus. Le temps est compté dans l'histoire d'Israël dans trois périodes successives, et chaque période a une égale durée de 70 semaines d'années, 70 semaines chacune, 490 ans, 490 ans. La première période, à partir du moment où le peuple est sorti d'Égypte, se termine à la royauté. Et assez tristement d'ailleurs, l'essentiel de cette période a été occupé par l'histoire des juges, qui dure environ 400 à 450 ans. La seconde période vient de se terminer lorsque Daniel a été suscité sur cette scène. La seconde période s'est terminée lorsque Dieu a retiré son trône de Jérusalem et lorsque maintenant il s'appelle le Dieu des cieux et non plus jamais le Seigneur de toute la terre. Il existe une période transitoire de 70 ans, de 70 ans, qui correspond au moment où le peuple jouit de la désolation de ses sabbats. Parce que le peuple n'avait pas autrefois gardé les sabbats de l'Éternel, à chaque fois qu'une période de 49 ans s'était écoulée, le peuple aurait dû s'arrêter de travailler pendant un an et de remettre les choses en l'état antérieur. Le peuple ne l'avait pas fait. Pour ainsi dire, le pays était en retard de 70 ans. Eh bien, le pays va maintenant jouir de la désolation de ses sabbats, et c'est ce que Daniel a compris d'après les écritures de Jérémie, au début du chapitre 9. La troisième période commence, et c'est la fin du chapitre 9 qui nous en parle, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir plus en détail, et elle se terminera lorsque nous serons partis. Elle s'est terminée à 7 ans près, c'est-à-dire au bout de 483 ans, par la mise à mort du Messie. Et il subsiste une dernière semaine d'année, 7 ans, qui recommenceront à courir lorsque l'Église sera partie. Donc il y a une période dans laquelle l'horloge prophétique est arrêtée complètement, et Dieu ne compte pas le temps en rapport avec ses voies, à l'égard ni de son peuple terrestre d'Israël, ni à l'égard des nations. Donc nous sommes maintenant, historiquement, en Daniel, entre la deuxième et la troisième période de l'histoire d'Israël, et Daniel relate essentiellement l'histoire des nations en rapport avec le peuple d'Israël pendant la troisième période de l'histoire de ce peuple, à l'exception de la dernière semaine qui reste à courir quant à ce qui nous concerne. Dernier mot, dans les acteurs de la scène finale, nous avons fait mention des 4 grandes monarchies. D'abord, la succession historique des monarchies, notre frère l'a rappelé, l'Empire des Chaldéens, des Mèdes et des Perses, l'Empire grec et l'Empire romain. L'Empire romain a succédé à l'Empire grec, de l'Empire grec s'est détaché le Royaume du Nord et du Midi, et l'Empire romain ressuscitera pour que les voies de Dieu soient complètes à l'égard de la terre. Mais, dans les 4 nations qui joueront un rôle important, il y aura donc ces 4 puissances politiques. L'Empire romain à l'ouest, l'Empire du Nord, la Russie, l'Empire du Midi, l'Égypte et les nations avoisinantes, et les rois de l'Orient. Il reste le côté religieux. Il y aura Satan, il sera sur la terre à la fin, puisqu'au bout de 3 ans et demi de cette dernière semaine, il sera précipité du ciel, Apocalypse 12. Et il aura 2 agents. Un premier politique, c'est la bête romaine, c'est la seconde bête de Apocalypse 13, et l'autre de caractère religieux, c'est l'Antichrist. L'Antichrist symbolisera et rendra actif l'apostasie religieuse juive, c'est-à-dire le refus de croire Christ comme le Fils de Dieu, et de le refuser comme Messie, et de recevoir celui qui, en son propre nom, viendra pour se faire accepter par les juifs apostats. C'est le caractère de l'Antichrist qui s'oppose donc à Christ. Et il reste encore une dernière puissance spirituelle, peut-être la plus terrible et la plus importante pour nous, c'est le système qui a porté le nom de Christ pendant toute la période chrétienne, sans que la vie soit là, en ne gardant que la profession et en devenant la plus abominable et la plus méchante des personnes, la grande prostituée Babylone. De sorte que, en compte, tout à fait complètement, nous avons 7 acteurs de la scène finale, Satan, Babylone et l'apostasie chrétienne, l'Antichrist, l'apostasie juive, et les 4 puissances politiques du royaume de Rome, le roi du Nord, le roi du Midi et le roi de l'Orient.
Si nous soit exposé dans la parole, dans un livre qu'il aurait balayé de son départ jusqu'à la fin de cette histoire, il semble que ça aurait été plus pratique. Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Et comme on l'a répété déjà bien des fois, cette prophétie nous est présentée, c'est comme si dans une nuit obscure, des projecteurs nous ouvraient la lumière dans des champs divers, les uns divergents les uns des autres, et quelquefois, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, quelques projecteurs sont convergents. Et l'on peut dire que de l'un à l'autre, ils nous donnent un éclairage beaucoup plus puissant sur une certaine période et sur certains événements. Ce sont ceux qui ont une importance toute particulière concernant surtout le peuple d'Israël, nous le comprenons bien. Il est d'autre part, et c'est assez courant dans l'Ancien Testament, concernant la prophétie, que nous commençons à avoir et on le voit souvent dans Daniel, comme une vision de loin, une vision d'ensemble. C'est comme si nous avions un paysage lointain devant nous, un ensemble de montagnes, qui nous donne au départ l'impression d'être toutes sur une même ligne. Et nous avons bien des difficultés à situer dans le temps cette montagne qui monte si haut à gauche de celle qui est à droite et qui semble être à peu près au même niveau. C'est là la vue d'ensemble, et on trouve cela quelquefois dans Daniel. Et puis, quelques chapitres plus loin, on s'avance alors, près de la montagne. Et on se rend compte davantage que, d'une montagne à l'autre, il y a des vallées qui les longent de Babylone, et va durer environ 163 ans. À la fin alors de ce royaume médo-perse, il va y avoir alors des guerres redoutables, et tous les jeunes gens qui sont ici ont encore certainement des noms et des dates en tête, concernant Marathon, concernant Salamine, voilà des choses que l'on apprend en histoire, 490 Marathon, 480 Salamine, et commence alors le royaume grec, essentiellement donc commencé par Alexandre le Grand, qui, comme on l'a dit, sera divisé entre quatre de ses généraux. Il y a, on l'a répété, deux de ses royaumes qui nous intéresseront moins sur le plan biblique. Celui donc de Grèce, à proprement parler, celui de Thrace. Resteront essentiellement celui de Syrie et celui d'Égypte. On en a parlé tout à l'heure, et celui-ci des Ptolémées. Essentiellement. Puis viendra le dernier royaume, qui est le royaume romain, donc Rome, qui à son tour va anéantir ce royaume grec, et qui lui va subsister très longtemps, jusqu'en 1453, je crois, de notre ère, où il va être anéanti par le royaume, par les Turcs. Et de ces anciens royaumes, le royaume romain, comme nous le savons, réapparaîtra à la fin. Ceci donc pour situer les pages où nous sommes là, nous arrivons à la fin du premier royaume historiquement, et la vue du prophète alors va s'étendre sur tout ce qui va se passer par la suite.
Et que Daniel parle de deux sortes de prophéties. D'une part, les prophéties plus immédiates, c'est-à-dire tout ce qui doit se réaliser avant la venue du Seigneur Jésus. Et de prophéties plus lointaines, c'est-à-dire celles qui doivent se réaliser après l'enlèvement de l'Église. On l'a dit, le temps de l'Église, qui dure bientôt depuis 2000 ans, est une parenthèse dans les prophéties. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir la liaison qu'il y a entre les prophéties qui étaient proches de Daniel avant la venue du Seigneur et les prophéties plus lointaines. Et nous voyons que les faits qui sont pour nous maintenant des faits historiques, puisqu'ils se sont déjà déroulés, les prophéties proches de Daniel, ces prophéties, ces faits historiques pour nous servent de soutien pour expliquer les prophéties lointaines, celles qui sont encore pour nous des prophéties. Et ceci est très intéressant parce que elle nous montre que, de toute manière, les voies de Dieu s'accomplissent, et d'autre part, elle nous montre que l'état d'esprit ne change pas. L'homme reste toujours l'homme, et les faits qui se sont passés avant le Seigneur peuvent servir d'explication aux prophéties qui vont se dérouler après la venue du Seigneur. Et c'est ainsi que c'est intéressant de noter que nos frères ont choisi de reprendre la lecture de Daniel, de ce chapitre 8 de Daniel au verset 18, parce que nous voyons justement à cet endroit la liaison entre ce qui a été les prophéties proche, c'est-à-dire ce qui est pour nous un fait historique, c'est-à-dire essentiellement la royauté de Antiochus Épiphane, et cet Antiochus Épiphane devient le symbole que ce qui sera un ennemi terrible d'Israël, c'est-à-dire l'Assyrien ou le roi du Nord ou Gog, dans le livre d'Ézéchiel. Nous pouvons trouver ceci dans différentes expressions. Nous voyons ainsi dans la portion qui nous a été lue que au verset 17, à la fin du verset 17, il est dit « Car la vision est pour le temps de la fin ». Il est clair que quand l'ange parle à Daniel du temps de la fin, il n'est pas question de la fin d'Israël comme peuple sur la terre, c'est-à-dire après le ravage de Jérusalem par Titus. Il s'agit véritablement du temps de la fin des épreuves d'Israël, c'est-à-dire le temps qui s'écoulera jusque avant l'établissement du règne de 1000 ans. Nous voyons au verset 19 qu'il est dit « Voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation ». Qu'est-ce que l'indignation? C'est la manifestation des jugements de Dieu à l'égard de son peuple, parce que son peuple a été idolâtre et l'a rejeté, et parce que son peuple a rejeté son fils qui devait régner sur son peuple. Voici l'héritier, tuons-le. Nous voyons ainsi que cette fin de l'indignation n'est pas encore arrivée, parce que ce peuple d'Israël souffre, et souffre peut-être plus que jamais, et souffrira encore beaucoup plus dans la grande tribulation. Donc on ne peut en aucun cas dire que cette fin de l'indignation est déjà passée. C'est quelque chose qui doit arriver. Nous voyons encore au verset 23, « Et au dernier temps de leur royaume, nous voyons à la fin du verset 26, la vision est pour beaucoup de jours. » Donc tout ceci nous indique d'une façon plus claire, d'une façon tout à fait claire, que nous passons de faits qui pour nous sont historiques, l'histoire d'Antiochus Épiphane, au temps de la grande tribulation, et Antiochus Épiphane devenant le symbole même de cet ennemi qui sera encore bien plus redoutable que dont nous avons parlé, qui est l'Assyrien. Tout ceci est intéressant à noter parce que nos frères qui nous ont expliqué la prophétie avec tant de clarté et de logique comme jamais personne ne l'a fait, il faut le reconnaître, on les a souvent accusés, ces frères, d'avoir forcé les Écritures. Mais justement, si ils ont pu expliquer la prophétie de cette façon-là, c'est en tenant compte de tous les éléments qui sont donnés dans la parole et par regroupement et en tenant compte avec précision de certaines expressions sont arrivés à cette conclusion que ce n'était pas possible que tout ce qui était annoncé par les prophètes et en particulier par Daniel fût déjà complètement réalisé. Une preuve supplémentaire, si cela est nécessaire, c'est que presque toutes les prophéties se terminent par une annonce de grande bénédiction pour Israël. Où sont-elles ces bénédictions aujourd'hui? Elles se réaliseront, mais vraiment, on ne peut pas dire que Israël ait connu ce temps de bénédiction. Ce temps de bénédiction sera réalisé durant le règne de 1000 ans. Et ceci nous montre que dans ce chapitre 8e, qui reprend en détail ce troisième empire, qui n'est seulement cité au chapitre 7e, que ce chapitre 8e est essentiellement là pour nous montrer l'existence de cette petite corne, c'est-à-dire d'Antiochus Épiphane, qui devient le symbole de cette petite corne redoutable qui sera l'Assyrien. De même, dans le chapitre 7e, nous avons le prophète s'étend surtout sur la quatrième bête effrayante pour nous montrer l'avènement de la petite corne qui sera le chef de l'Empire romain. Deux ennemis redoutables de tous les croyants et qui seront source de souffrances terribles pour le résidu fidèle d'Israël au temps de la fin.
On notera en passant que dans les six derniers chapitres de l'étude de Daniel, qui sont les chapitres prophétiques, l'Esprit de Christ nous conduit successivement à considérer les choses du point de vue de Dieu, donc en rapport avec Israël comme centre, soit selon le développement de la puissance orientale, soit le développement de la puissance occidentale. Les chapitres 7 et 9 nous parlent de la puissance occidentale. Le chapitre 8, qui est devant nous cet après-midi, nous parle de la puissance orientale. Et cette histoire continue dans les chapitres 10, 11 et 12. Un autre exemple tout à fait frappant dans le courant de pensée que notre frère vient de développer, c'est que si Antiochus Épiphane, autrefois, dans un temps qui était celui des Maccabées, aux environs de 200 ans avant la venue de Christ sur la terre, a souillé le sanctuaire de Jérusalem, le sanctuaire juif, en obligeant les sacrificateurs à sacrifier une truie, ce qui était évidemment une abomination aux yeux de Dieu. Ceci est l'image de ce qui arrivera plus tard, après l'enlèvement de l'Église, lorsque, au milieu de la semaine, eh bien, le chef de l'Empire romain et l'Antichrist seront les instruments pour justement que la même chose arrive, c'est-à-dire que l'abomination qui cause la désolation soit placée dans le lieu saint. Alors, surtout pour nos jeunes, il faut bien faire la différence. L'expression est utilisée, je crois, trois fois dans Daniel et aussi dans les évangiles. Le Seigneur nous dit d'ailleurs, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation placée dans le lieu saint, selon ce qu'a dit Jérémie, que celui qui entend comprenne. Alors vous avez à fuir, dit-il aux résidus fidèles de la faim. On peut dire en passant d'ailleurs que le même courant d'enseignement nous est donné par Christ. Il s'adresse à ses disciples qui vivaient autour de lui maintenant, qui étaient sur la montagne des Oliviers à voir le temple. Et pour le Seigneur, les disciples représentaient ce que serait plus tard le résidu qui effectivement traverserait la grande tribulation. Alors maintenant, le Saint-Esprit nous présente l'exemple de l'abomination d'Antiochus Épiphane qui a eu lieu il y a donc à peu près 2200 ans pour être le symbole de ce qui arrivera plus tard lorsque les derniers éléments de la fin arriveront. Alors, cette abomination qui cause la désolation, en rapport avec le temps futur pour nous, c'est-à-dire les temps de la fin, c'est au chapitre 9, au verset 27, et au chapitre 12, au verset 11. Alors que l'abomination et la profanation du sanctuaire par Antiochus Épiphane nous est donnée au chapitre 8, et au verset 11, et même au verset 13, et au chapitre 11, au verset 31. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une extrême prudence et une très grande dépendance du Saint-Esprit pour étudier la prophétie. Puisque, en fait, le chapitre 11, verset 31, a exactement les mêmes expressions que le chapitre 12, le verset 11. Il s'agit de deux choses historiquement complètement différentes, mais dont l'une est l'anticipation morale de l'autre. Antiochus Épiphane, lorsqu'il a fait cela, il a typifié, il a préfiguré ce qui arriverait plus tard.
Brièvement, un de nos chers devanciers qui a écrit beaucoup sur la prophétie, et nous pouvons bien dire que rien que ce fait, à lui seul, montrerait que le Seigneur était avec ceux qu'il avait réveillés, les saints qu'il avait réveillés au commencement. On a déjà abordé la question des 70 semaines. Il y a au moins, quelqu'un a compté 32 supputations, et toutes sont inexactes. Et le Seigneur a donné à nos frères l'intelligence de cette vision de telle manière qu'il ne reste aucune équivoque. Aucune incertitude. Et nous disons que jusque-là, non pas qu'ils aient pu se baser sur des choses qui restaient à développer, ils n'avaient aucun terrain. Peut-être bien plus de sottises que d'autres choses. Ceci dit, le même auteur qui a reçu tant de lumière peut dire « Je ne donnerai pas deux sous de toute la prophétie ». Vous remarquez, je ne donnerais pas deux sous de toute la prophétie si elle avait seulement pour but d'occuper nos esprits et d'être un sujet d'étude comme on étudie un sujet quelconque ou une science dans laquelle on a quelque intérêt. Mais bien, dit-il, parce qu'il était très prudent à cet égard, dans une certaine région, une certaine localité, on lui avait demandé de tenir des réunions sur l'Apocalypse. Nous pouvons donner des références. Après avoir réfléchi, il a dit non. Sur les trois premiers chapitres, oui. Parce que ceux-là sont essentiels et nous intéressent au premier chef. Mais il avait quelques doutes, quelques craintes que le sujet essentiel de la prophétie de l'Apocalypse ne répondrait pas à un besoin, mais bien plutôt à un désir de curiosité. Je ne donnerais pas deux sous de toute la prophétie si elle avait seulement pour but d'occuper nos esprits et d'accaparer nos intelligences sans qu'elle ait des effets pratiques dans nos cœurs, parce que c'est bien cela que Dieu poursuit. Que Dieu poursuit, nous séparer de tout ce qui, dans le monde, attire le jugement, dont la prophétie rend un témoignage si certain. Première chose. Deuxième chose, nous parlons de cornes. Or, la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Qu'est-ce qu'une corne? Eh bien, une corne, c'est une puissance. Et nous lisons, pour en donner une référence, dans 1 Chronique 25. Vous verrez, cela est un petit détail, mais aide à comprendre un peu. Nous parlons de cornes, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vient nous dire par des cornes. 1 Chronique 25, il s'agit des chantres, tous ceux qui avaient été désignés par David pour officier dans le temple et pour remplir un rôle si important. Tous ceux-là, au verset 6, tous ceux-là étaient sous la direction de leur père, d'Azar, de Jédutun et d'Aimon, un descendant de chacune des grandes familles de Lévi. Et nous lisons, dans le champ de la maison de l'Éternel, et un peu plus haut, au verset 5, cet aimant qui occupe une place prépondérante, le voyant du roi dans les paroles de Dieu pour exalter sa puissance. Donc, dans le temple, il y avait là des personnes, des lévites, qui avaient comme rôle le chant dans la maison de Dieu, mais il avait comme objet exalter la puissance de Dieu. Aujourd'hui, remarquons que le terrain s'est élargi pour nous, nous ne proclamons pas, nous n'adorons pas seulement Dieu dans sa puissance, mais dans son amour. Christ, la sagesse et la puissance de Dieu. Alors nous avons dans ce verset, exalté la puissance de Dieu, verset 5, et le traducteur a indiqué à la note F, élever la corne. Donc exalter la puissance de Dieu, c'est élever la corne de Dieu, c'est présenter la corne comme étant l'emblème de sa puissance, puissance devant laquelle nous nous courbons et pour laquelle nous l'adorons. Psaume 89, un autre exemple, et ce sera suffisant sans doute, il y en a beaucoup d'autres. Verset 84, il est dit, « Et ma fidélité, ma bonté seront avec lui. » Lui, pronom personnel qui désigne dans ce cas inévitablement et immanquablement le Seigneur Jésus. « Ma bonté, ma fidélité seront avec lui et par mon nom, sa corne sera élevée. » Demain, le Seigneur sera vu dans sa majesté, dans sa puissance, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sa corne sera élevée. Psaume 89, verset 24. Enfin, troisième petite remarque que nous voulions ajouter à ce que nos frères nous ont dit, chose bien utile et intéressante, ce que nous avons dans l'histoire d'Antiochus, Épiphane, l'illustre, mais illustre par ses cruautés, par ses crimes, est un exemple de ce qui se passera sur la scène demain dans un autre personnage qui reprendra son compte ce caractère d'Antiochus et le manifestera dans des conditions de souffrance pour le peuple de Dieu qui seront pour lui l'indignation, la grande tribulation. Alors c'est l'occasion de rappeler ce que Pierre nous dit. C'est dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2. La prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé. Ils sont bien persuadés de cela. Et en même temps, sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie, nous citons 2 Pierre 1, verset 20, Sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, ou n'est d'une interprétation particulière. C'est-à-dire qu'une prophétie que nous lisons dans l'Ancien Testament, comme dans le livre de Daniel, et qui a déjà reçu un accomplissement, eh bien nous pouvons dire qu'elle n'est pas d'une interprétation particulière. Elle n'est pas entièrement accomplie selon la pensée de Dieu. Il faut la situer dans le grand plan final. Elle n'est pas d'une interprétation particulière. Elle n'a pas trouvé une pleine réalisation dans le passé. Il faut la situer dans le grand plan de l'avenir, car c'est là le point essentiel sur lequel Dieu attire notre attention. Et nous y sommes. Nous y sommes. La crise va s'ouvrir d'un moment à l'autre. Tous les éléments sont sur la scène.
Il veut